France de Navi.
Bonjour, bienvenue dans le goût du monde, le goût. Il nous prend par surprise, le goût. Une bouchée, nous voilà plongés ailleurs, dans un autre temps, dans un autre espace. La cuisine d'une tente, une impasse, un jardin, dans l'entrée d'un immeuble. Éparses, disséminées ici et là, qui ressurgissent, ces goûts, à notre insu. La cuisine est une alliée indéfectible de la mémoire et de l'identité. Elle ne prend pas parti, elle transporte seulement, traverse les siècles, malgré les bouleversements du monde, toujours vivante. Après l'explosion de Beyrouth, nous avions envie de parler de vie ici. Et oui, et du goût de la vie. Sur votre dessin, Zeina Birached, publié dans le supplément littéraire de L'Orient, une fenêtre s'ouvre sur la mer. On aperçoit à gauche un olivier, à droite comme une île laisse le port en ruine. Je pense que c'est de cela dont il s'agit. La lune est noire, croissant, et on lit. Il paraît qu'au pied de nos silos en ruine, sur cette terre dévastée, le blé déversé se serait mis à pousser. J'ai envie de croire que c'est vrai. Bonjour Zeina Birached.
Bonjour.
Vous êtes franco-libanaise, vous êtes dessinatrice, auteure de plusieurs bandes dessinées. Bien sûr, Mourir, Partir, Revenir, Le jeu des hirondelles chez Cambourakis, Le piano oriental qui est publié chez Casterman. On verra aussi que vous avez dessiné et cuisiné en quelque sorte. Ça, on va l'entendre au cours de cette émission. Bonjour Karim Aïda.
Bonjour.
Alors on a de la chance parce que c'est un peu grâce à vous que Zeina est avec nous aujourd'hui.
Oui.
Quand
oui,
je vous ai dit, est-ce que vous viendriez me parler du goût de la vie au Liban ?
Je pensais que c'était intéressant d'avoir deux voix différentes, et je pense qu'elle apporte quelque chose que je n'apporterais jamais sur le Liban, et je trouve que ce serait limiter beaucoup que de ne m'avoir que moi. Donc j'espère que voilà qu'elle nous apportera l'autre touche.
Bon, on dira ça. Je pense que oui.
Je vais essayer.
Donc vous êtes vous chef cuisinier à Paris, les mots et le ciel à manger. Lit-on juste en dessous, c'est dans le 15e arrondissement à Paris, c'est votre dernier né. Vous êtes restaurateur, vous êtes auteur aussi, notamment de la cuisine libanaise d'hier et d'aujourd'hui chez Albin Michel avec André Malouf, et président, fondateur de l'Académie de cuisine du monde arabe. Ça fait beaucoup de choses à dire, mais surtout ce que vous êtes tous les deux, ce que vous avez en commun, c'est un pays d'origine que vous avez tous les deux quitté pour diverses raisons, mais en tout cas vous avez le Liban au cœur et à l'origine. Je voudrais savoir, Karim Aïdar, on parlait du blé dans le dessin de Zeina. Ce blé, qu'est-ce qu'il représente au Liban ? Est-ce que c'est pas ça,
alors,
la vie ?
Le blé, c'est essentiel. Alors, la vie, effectivement, il y a plusieurs choses dans le blé qui sont très importantes. Dans le monde arabe, dans l'ensemble d'ailleurs, et l'Académie de cuisine du monde arabe a d'ailleurs comme symbole un épi de blé. C'est dire. Le blé est très important dans toute la région, et vous dites la vie. La vie aussi est un mot très utilisé en arabe pour parler d'aliments. Également dans tout le monde arabe, c'est soit le blé ou des produits à base de blé, comme la semoule dans le Maghreb, ou le blé lui-même dans certains pays, le pain issu du blé, ou alors parfois le riz se retrouve comme étant le aïch, c'est-à-dire la vie. Au Liban, nous n'avons pas l'usage du mot aïch généralement pour un produit, mais le blé est certainement le produit le plus important de la cuisine libanaise, dans la mesure où il se transforme en berol. Le berol, le boulgour, c'est le blé concassé et tuvé, qui est soit gros et qui se mange comme un riz, soit fin et qui rentre dans les deux préparations mythiques du Liban, la taboulée et la kebbeh.
C'est pour cette raison que vous aviez choisi le blé, justement, sur ce
dessin. En réalité, les silos, donc en effet, ce sont bien les silos du porc qu'on aperçoit dans le dessin, constituaient un vrai point visuel marquant dans la ville. En fait, c'était vraiment le signal de l'arrivée à Beyrouth quand on venait du nord, par exemple. La première chose qu'on apercevait à notre droite, donc du côté de la mer, c'était les silos, qui était tout dans une architecture très simple, blanche. Enfin, il détonnait dans le paysage. Bon, il se trouve qu'il contenait du blé, donc j'ai eu envie. La difficulté, si vous voulez, de ce dessin, c'était qu'il fallait, quelques jours après le drame, essayer de trouver une pointe d'espoir. Et c'est peut-être le dessin qui était le plus difficile à faire peut-être presque dans ma vie, parce que c'était juste après la catastrophe.
Vous parlez d'espoir alors que peut-être votre cœur n'était pas à l'espoir à ce moment-là.
Pas encore, en tout cas. C'est-à-dire, à ce moment-là, on était encore dans le... Et on l'est, en quelque sorte, encore aujourd'hui, parce que ça fait un mois, en réalité, mais le choc est tellement puissant que je pense que ça va être un peu long, disons, pour se remettre de ce traumatisme et de cette perte, surtout. Voilà, donc il y avait l'envie de dessiner les silos, et puis tiens, dans les silos il y avait le blé, puis de fil en aiguille je me suis dit que ça serait en réalité le symbole justement parfait pour l'espoir, la renaissance, dans les cendres même de ce drame. C'est arrivé un peu comme ça. Comment dire, je voudrais pas commenter plus longuement le dessin, mais disons qu'au premier plan il y a ces trois arcades libanaises de toutes ces maisons qui constituaient les quartiers qui ont disparu aujourd'hui, donc le quartier de Gemaizé, de Marmiquel, et de Sursoc et de la Quarantaine. Donc il y a aussi cette architecture, ce patrimoine qu'on a eu tant de mal à sauvegarder après la guerre civile de 75 à 90. Et voilà, donc j'avais aussi envie qu'au premier plan il y ait cette architecture-là qui me tient à cœur et que j'ai beaucoup dessinée par ailleurs dans mes livres.
Moi, ce blé, je l'ai vu surtout comme un trait d'union entre les pays de Méditerranée, les pays proches du Liban et à l'intérieur du Liban. Si on devait justement trouver, en lien avec ce blé, un aliment qui soit synonyme de vie avec ce blé.
En fait, c'est pour moi le plat le plus intéressant de la cuisine libanaise, parce que justement, c'est peut-être celui qui réunit le plus. Et c'est la kebbeh dans laquelle on met le beurre rôle, puisque la kebbeh est composée de beurre rôle, souvent de viande, parfois d'autres choses, mais elle est surtout connue pour la kebbeh de viande, qui est faite à base de viande, généralement d'agneau ou de chèvre, et de boulgour, et qui se présente sous plein de formes. Maintenant, en quoi c'est une unité, au-delà du fait qu'elle est mangée par tous les Libanais, d'où qu'ils viennent, et qu'il y a de grandes variétés de recettes.
Et peu importe leurs moyens également.
Voilà, c'est que la quantité de beurre rôle et de viande, et vous imaginez bien que la viande est beaucoup plus chère que le blé, n'a jamais été quelque chose de prédéterminé. Et suivant les familles et suivant les moyens financiers, on arrive à aller sur une kebbeh où il y a jusqu'à 100% de beurre rôle, donc en fait sans viande. C'est vraiment l'extrême extrême, mais parfois ça peut être 10% de viande et jusqu'à 80 ou 70 ou 80% de viande. Et ça fait que, quels que soient les moyens de la famille en question, on se retrouve à manger tous de la kebbeh, et le lendemain, en allant au travail, les personnes de tous les horizons peuvent se dire on a mangé de la kebbeh, personne ne demande à l'autre quelle est la proportion, et finalement, quelque part, ça unifie socialement le Liban, et d'une certaine manière, ça unifie les Libanais. Alors, il y a beaucoup d'histoires aussi sur la kebbeh qui est très très intéressante, et qui montre l'importance de ce plat, notamment par diverses créations. Par exemple, il y a eu la création d'une kebbeh qui s'appelle la kebbeh rusée, la kebbeh hile, qui a été faite pour une raison toute simple. C'est un moment où, un court moment où l'Empire ottoman a un petit peu essayé d'empêcher les chrétiens du Liban d'exercer leur religion. Ils se sont dit qu'il fallait les forcer à manger de la viande le vendredi. Parce qu'autant leur interdire de prier, c'était difficile à moins d'être avec eux tout le temps. Mais leur faire manger de la viande le vendredi, c'était facile, il suffisait de venir à l'heure du repas et dire « vous mangez de la viande ». Et là, ils ont inventé une kebbeh qui ne contient pas de viande, mais qui contient du potiron par exemple ou un légume, et qui se retrouve à avoir la même couleur qu'une kebbeh de viande, et qui permettait de dire aux soldats de l'Empire ottoman « bah voyez, on mange de la viande, non, on n'est pas chrétien ». Et donc cette kebbeh, elle a vraiment servi de lien à travers le pays.
Et de résistance.
Et de résistance donc. Mmh. Et il y a beaucoup d'autres histoires sur d'autres religions et sur d'autres cas qui partent de ce plat qui est vraiment, pour moi, le plat le plus important du Liban. Souvent on dit la taboulé, la kebbeh, mais la kebbeh, bon, j'ai une faiblesse pour la kebbeh.
Une faiblesse que vous partagez.
Ah oui, totalement. Moi, pendant très longtemps, j'avoue, je rapportais de la kebbeh avec moi du Liban que je congelais ici. C'est-à-dire, pendant longtemps, c'était un des rares plats que je n'admettais pas pouvoir trouver ailleurs que chez moi.
Mais ça, ça a des raisons, ça, parce qu'en termes de goût, j'imagine que la kébé faite au Liban n'a pas du tout le même goût que la kébé faite ici.
Bah, c'est surtout que la kébé de ma mère n'a le...
On rentre tout de suite dans le vif du sujet.
Disons que c'est toujours, évidemment, c'est toujours lié à des émotions, à des souvenirs, vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, pendant longtemps, c'était comme une certaine façon de continuer à tisser un lien direct en rapportant dans ces valises des kébés.
Ces fameuses valises, les kébés congelés étaient aussi dans les valises des Zeynep et Rachel.
Mais ceci dit, la kébé est un... J'ai vraiment l'impression que c'est, tu l'as dit tout à l'heure, Karim, comme un dénominateur commun. Et moi, j'ai eu l'occasion de constater que c'est la tradition de faire de la kébé à la maison et une des dernières choses qu'on perd quand on est exilé ou émigré. J'ai l'impression que c'est après avoir perdu peut-être des traditions, des habitudes, la langue, il y a quand même le dernier bastion de cette identité-là. Et dans la cuisine, et particulièrement dans la kébé.
Et pourquoi est-ce qu'on la perd, justement, cette tradition, quand on est loin? Parce que, pour dire un mot de ce que c'est que cette kébé, pour ceux qui ne connaîtraient pas, alors il y en a qui n'ont pas cette forme-là, mais normalement, on peut la tenir, vous faisiez ce geste-là, d'ailleurs, Zeyna, de comme tenir dans la main quelque chose d'un peu précieux, c'est, on dirait, presque une forme oblongue. Hein,
voilà, c'est comme un ballon de rugby, mais qui est fait, non pas comme on imagine, c'est-à-dire, il y a la pâte, qui est faite donc de boulgour et de viande, ou d'autre chose, mais souvent de viande, et cette pâte-là, elle est creuser comme une poterie, pas du tout comme on imagine, on met pas le pouce dedans pour faire un trou et mettre, il faut la creuser, il faut la pétrir de manière à ce que la paroi soit très très fine, ensuite elle est farcie et ensuite elle est refermée. Alors la forme classique effectivement ressemble un petit peu à un ballon de rugby, elle est un peu allongée comme vous avez dit, mais elle peut avoir toutes sortes de formes. Elle peut aussi tout simplement aller dans un plat qui va au four, soit en deux couches, soit en une couche, avec la farce dessus, au milieu, ou pas de farce du tout. Elle peut aussi tout simplement être mangée sans aucune farce, sans aucune cuisson, crue. Et c'est la kébé naillée qui est considérée comme un des grands plats du dimanche, d'ailleurs, généralement, quelque chose de vraiment exceptionnel. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très particulier parce que il y a un travail aussi dessus qui est très intéressant. C'est le travail traditionnel pour faire la kébé. Il y a une partie qui a disparu aujourd'hui ou qui est en train de disparaître et il y a une partie qui reste. Façonnée à la main, travailler à la main une pâte, c'est quelque chose d'organique, de vivant, de très sensuel, et puis qui implique une certaine technicité et du temps. Et souvent, c'est en ce sens, on voyait à la maison, généralement, les personnes font rarement de la kébé toute seule, elles se mettent à deux, les mères de famille, deux, trois ou quatre, les à faire de la kébé ensemble. Voisines. C'est une manière de discuter, c'est comme rouler des feuilles de vigne, effectivement, ou faire des choses comme ça, et on se retrouve à faire ça. Alors, ce geste-là reste, mais pourquoi est-ce que il ne voyage pas beaucoup? Parce que, tout simplement, il y a une technicité dedans. Il y a une technicité qu'il faut d'abord maîtriser pour arriver à le faire, et souvent, on apprend les uns avec les autres, et quand on immigre, souvent, on est un peu tout seul et on n'apprend pas grand-chose. Le deuxième geste qui, lui, est en train de disparaître est magnifique aussi, c'est celui de faire cette pâte. Elle se faisait traditionnellement dans un pétrin avec un pilon, un grand pétrin en pierre et un pilon. Et on devait taper la viande et le boulgour et les incorporer dedans. C'était un très, très gros travail. Et d'ailleurs, il y a même une espèce de proverbe... qu'on va me dire être assez machiste, ce qui est le cas aujourd'hui, qui existe au Liban, qui est que si tu ne veux pas que ta femme t'embête, fais-lui faire de la kébé, parce qu'elle va devoir passer 2 heures à taper avec un pilon dans le pétrin, et ça va bien sûr épuiser, parce que c'est épuisant. Moi j'ai essayé une fois, je peux vous garantir que je sais même pas comment ils arrivaient à faire ça. C'est très très difficile, puisque vous prenez des morceaux de viande entiers, qu'il faut piler pour les transformer en purée et les incorporer au boulgour juste en tapant avec. Aujourd'hui, on a des machines qui prennent 2 minutes.
Moi, j'ai une histoire par rapport à ces traditions-là et puis tout ce que cette cuisine-là charrie de culture et d'identité. J'étais à Cayenne il y a 5 ou 6 ans pour une rencontre en bibliothèque suivie d'une dédicace. Et puis un couple adorable est venu me parler au moment de la dédicace pour m'inviter à déjeuner le lendemain, me disant en deux mots que l'arrière l'arrière-grand-père de la dame était libanais et qu'il était venu s'installer à Cayenne il y a très très longtemps. Et donc je suis arrivée chez eux le lendemain, donc il y avait combien, 3 générations qui étaient présentes, 4 générations, donc l'arrière-grand-mère, la grand-mère, le couple en question et leurs enfants. Et c'était incroyable parce qu'on était à Cayenne et j'avais l'impression d'être dans un intérieur béroutin, mais du siècle dernier. C'était un salon arabe avec des tapis, puis des coussins au sol, et au mur étaient accrochées des cartes postales agrandies de Beyrouth, mais du Beyrouth des années 50, donc c'est une ville qui n'existe plus aujourd'hui. Et voilà, c'était leur intérieur. Et quelle ne fut ma surprise quand on est passé à table, devinez ce qu'on a déjeuné. Ils avaient préparé de la kébé. Et ces gens-là n'avaient jamais mis les pieds au Liban. Ils ne parlaient plus l'arabe depuis la génération de l'arrière-grand-mère. Et pourtant, ils préparaient encore la kébé. Ils préparent encore la kébé au présent.
C'est important de conserver ce patrimoine, de le faire vivre encore.
Oui, oui, oui. Et c'est ça qui me faisait dire tout à l'heure que c'est peut-être la dernière chose, que le dernier lien que l'on perd avec le pays d'origine, justement la cuisine, et peut-être plus particulièrement des plats comme la kébé, ou peut-être qu'il y en a d'autres d'ailleurs.
On se laisse surprendre cependant, si vous deviez nous raconter l'un de vos premiers goûts, souvenirs de goût d'enfant. En sachant que vous êtes né en 1981.
Oui.
Et que moi, je suis beaucoup plus vieux.
Et que vous, Karim, vous êtes beaucoup plus vieux, donc vous n'avez aucun souvenir en commun. Votre premier souvenir gustatif, comme ça, celui qui remonte quand... Ou peut-être ça peut être une odeur ou un parfum.
C'est les deux, en réalité, c'est les deux, parce que je crois que c'est le za'atar. C'est vraiment l'odeur et le goût les plus anciens et les plus puissants auquel je peux penser là tout de suite. Donc le za'atar, c'est un mélange de thym, de sumac, de grains de sésame, qu'on peut mélanger dans l'huile d'olive. Je parle sous ton contrôle, est-ce que j'ai oublié quelque chose ?
Juste que c'est pas du thym, c'est de l'origan. Et on appelle ça du thym libanais, je sais pas pourquoi, depuis toujours.
Origan sauvage.
Oui, c'est de l'origan médicinal, le za'atar normal.
Ça a une odeur incroyable. Et quand on fait des balades en montagne au Liban, parfois on en trouve à l'état sauvage et il suffit de se frotter les mains, c'est incroyable en fait. C'est une odeur qui est...
C'est très très odorant. Bah, d'ailleurs là, je viens de mon nouveau lieu où on fait des manaïches de za'atar. Et je sentais le... Et en fait... J'ai une cliente qui est rentrée avec son masque pourtant, elle me dit qu'est-ce que ça sent bon. Et comme quoi le za'atar odore tellement que à travers le masque, alors qu'il n'y a pas grand-chose à sentir encore, elle arrivait à sentir le za'atar. C'est peut-être l'odeur du za'atar sur moi qui t'a fait penser à ça.
Peut-être inconsciemment.
Et le za'atar, il était mangé alors, du coup sur un manouché,
alors avant les manouchés, c'est vraiment un souvenir d'enfant. On trouvait à Beyrouth, on en trouve encore d'ailleurs, ce qu'on appelle des kaak. C'est une espèce de galette ronde avec un trou au centre qui fait que les petites filles, parce que souvent c'est des marchands ambulants qui vendaient les
caracs. Je viens enfin de comprendre ce que l'on voit dans les planches de vos albums de bande dessinée et comment aussi. Ça s'appelle, parce qu'ils sont assez omniprésents.
Oui, tout à fait. Donc c'était un vendeur ambulant qui passait dans le quartier qui criait « Caac, caac !» Alors les gens sortaient au balcon et chacun disait 2, 3, 6, enfin voilà. Et puis parfois on descendait l'argent dans un panier en osier accroché au balcon. Ça c'est vraiment pour la carte postale, mais c'est vrai, c'était comme ça dans les années 80. Et parfois, on descendait tout simplement dans la rue pour payer les caacs et les consommer. Donc, les petites filles, à cause de cette forme arrondie avec ce trou au centre...
On dirait presque un sac à main, en fait.
Exactement. On les mettait à l'épaule quand on était enfant. Et donc, on avait toute l'épaule et tout le reste de nos vêtements qui sentaient le za'atar après. Et ce qui est très bon, c'est que là, dans cette version-là, donc on creuse cette galette qui est un peu molle au niveau de l'anse, si c'est un sac à main, mais assez croquante au niveau du corps du sac, du fond du sac. Et c'est du za'atar qui est non mélangé à l'huile, justement. Donc, il jette comme ça, le marchand jette une poignée de za'atar. Donc, tout ça est assez sec. Et c'est un peu âpre sous la langue, enfin c'est délicieux.
تذكري لما أمك شفتني نايم بتختك قالت لي انسى عنك
واتفقنا نضلنا هيك بلا دور وطنطنت بلا كرافات وصبحية
de Machrou Leila sur RFI. Bienvenue, vous nous rejoignez, vous écoutez Le Goût du Monde, Le Goût de la Vie au Liban avec la dessinatrice franco-libanaise Zeina Berached, auteure de plusieurs albums, ode à la mémoire, à l'identité tricotée entre Orient et Occident, fait de souvenirs dont elle ne veut pas perdre une miette pour se construire. Et nous sommes aussi avec le chef cuisinier Karim Haïdar, son double, son complice aujourd'hui pour donner des notes de goût, des saveurs à cette quête commune entre ici et là-bas. Quand je dis quête commune, il s'agit bien sûr d'une quête d'identité, mais avant de partir sur ce chemin alambiqué, Karim Haïdar, votre souvenir d'enfance,
De nourriture, le premier. Ça paraît un peu étrange, mais mon premier souvenir, d'ailleurs c'est resté ma passion dans la vie, c'est la friture de petits rougets. Voilà. Alors c'est bizarre pour un enfant, mais depuis mes 3 ans, on me met dans un coin avec mes petits rougets frits et je les dépiote tout seul, alors qu'il y a des arêtes très dangereuses dans les rougets pour les enfants. Et c'est resté quelque chose qui m'a marqué. Je pense que ça raconte à la fois la Méditerranée, le poisson et la manière de cuire le poisson, cette manière de faire frire ce type de poisson et quelque part la convivialité, parce que c'est quelque chose qu'on dépiote déjà avec les doigts. Moi, je considère déjà que manger avec les doigts, c'est très très important. Ça fait partie de ce que nous faisons beaucoup, puisque par exemple le pain au Liban est utilisé comme un instrument. On utilise le pain pour tremper dans quelque chose, pour saisir quelque chose. Et j'adore cette gestuelle. Et dépiauter quelque chose, là, dans ce cadre-là, les petits rougets, je sais pas, c'est un rapport avec l'aliment qui est différent, très très différent de ce qu'il y a avec un couteau et une fourchette ou avec des baguettes. Enfin, moi, j'aime bien manger chaque aliment avec suivant l'endroit d'où il vient, de la manière dont on le consomme dans ce pays-là. Parce que je pense que l'instrument que nous utilisons est très important.
Facatine, c'est vous qui l'avez choisi.
Oui.
Donc ça raconte quand même une histoire assez triste, Facatine.
Oui, ça raconte une histoire effectivement triste, puisque ça raconte l'histoire d'un couple qui sort ensemble et qui voudrait sortir ensemble librement et être bien ensemble. Donc pourquoi est-ce que je l'ai choisi? Je l'ai choisi pour deux raisons, cette chanson. D'abord parce que c'est à la fois c'est la modernité du Liban. C'est de sortir ensemble, pas en se rencontrant, en décidant de se marier avant, etc., mais d'accepter de vivre d'une manière plus contemporaine. Et ça, c'est pour montrer que le Liban tel quel existe. Alors malheureusement, c'est triste, oui, parce qu'il y a un moment, en fait, c'est un peu comme si les traditions et les habitudes reviennent, l'importance de l'argent revient. C'est un peu comme si il y avait la possibilité d'ouverture dans le Liban, d'être jeune et de vivre comme aujourd'hui, mais comme si tout ça, ça pouvait disparaître après parce que il y avait les choses rationnelles qui devaient se faire. Ça, c'est la première raison pour laquelle j'ai choisi cette chanson. La deuxième, c'est parce que Machrou Leila a eu de grands soucis pour être joué à un festival cet été au Liban, pour des raisons liées à des communautés religieuses qui ne voulaient pas qu'il joue. On va pas rentrer dans les détails de tout cela, mais quelque part, ça montre aussi comment était le pays, c'est-à-dire quand un groupe musical de ce calibre-là, de cette qualité-là, qui raconte autant un pays, puisse se retrouver à être éliminé d'un festival, parce qu'il y a des gens qui se permettent, pourtant parfois même chefs de certaines communautés, qui peuvent se permettre de dire qu'on ne veut pas qu'ils jouent, que ces gens-là reçoivent des menaces et qu'un gouvernement puisse vous dire il vaut mieux qu'ils ne jouent pas parce que c'est dangereux, plutôt que d'aller poursuivre les gens qui les menacent. Je trouve ça assez grave et je trouve que c'est important de le pointer. Voilà.
Et donc de le dire.
Vous me rejoindrez, j'imagine, Zeina, pour dire que musique et cuisine se rejoignent également. Il y a dans l'un de vos albums, qui s'appelle Le Piano Oriental, un pont dressé entre l'Orient et l'Occident. Est-ce que vous pourriez... Non, d'abord, on va peut-être écouter quelques notes de musique. On a les poils qui se dressent sur les bras. Ça donne la chair de poule. Qu'est-ce que c'est que ce piano? Et qu'est-ce que c'est que cette air? Est-ce que vous pourriez nous raconter cette histoire-là, s'il vous plaît?
Alors, cette air qu'on vient d'entendre est le premier air de musique que l'on écoute dans la version scénique du piano oriental. Donc, que j'ai adapté avec mon comparse Stéphane Sapis, qui est pianiste. C'est lui qu'on entend d'ailleurs. Il me semble que sur cette version qu'on vient d'écouter, il joue sur un piano oriental, qui est le frère presque jumeau du piano oriental de mon arrière-grand-père, qui a été inventé dans les années 50 entre Beyrouth et Vienne, et qui est à Beyrouth aujourd'hui. Il est en pleine forme, je vous rassure.
Vous avez parlé de ce piano bilingue, qui est doté d'un quart de ton. C'est ce qui fait la différence entre un piano classique et un piano qu'on pourrait qualifier d'oriental.
C'est ça. Normalement, dans un piano, l'intervalle le plus petit entre deux touches est d'un demi-ton. C'est entre une noire et une blanche.
Et ça, c'est un subterfuge qui a été trouvé par votre arrière-grand-père pour arriver à ce quart de ton.
Oui, oui, oui. Et plutôt que d'ajouter des touches au clavier, comme on aurait pu penser logiquement, en réalité, il aurait dû ajouter des touches pour ajouter des intervalles. Mais lui, il avait une obsession, c'était de ne pas changer l'aspect du piano. Il ne voulait pas en faire un instrument une bête de foire. Il voulait que ça reste un piano dans son intégrité.
Et qu'on puisse être surpris, du coup.
Oui. Alors justement, il y a ce phénomène-là parce que c'est un piano droit qui ressemble à tous les autres pianos droits du monde. Et il a construit un mécanisme intérieur quand on appuie sur la pédale de la sourdine, qui est la pédale du milieu. À l'intérieur du piano, donc c'est invisible, tous les marteaux se décalent d'un quart de ton. Donc le clavier, lui, ne change pas, mais quand la pédale est enclenchée, on est en mode quart de ton. Et ce qui est extraordinaire, enfin pour moi en tout cas, c'est que quand on relâche la pédale, ça redevient un piano habituel. C'est en ça que c'est un instrument bilingue, parce que dans une même phrase, il peut avoir les deux modes, les deux langages musicaux, un peu comme nous.
Absolument. Je voudrais savoir justement, puisqu'ici on est dans le goût du monde, donc forcément je vais vous demander, Karim Haïdar peut-être, quel serait le quart de ton culinaire qui serait justement comme un kebérusé, mais qui serait en filigrane comme ça, et qui suffirait juste d'ouvrir pour qu'on sache où on est et qu'on ait justement cette note orientale.
Ah, ça c'est un grand, grand sujet.
Vous avez 2 heures,
absolument.
À ça, je ne saurais pas dire. Franchement, je ne saurais pas dire qu'il y ait quelque chose qui transporte comme ça directement au Liban. L'odeur comme ça ou le goût qui viendrait serait ce qu'a dit Zeina tout à l'heure, c'est-à-dire le za'atar. À défaut de cela, une seule chose, non. En fait, j'aime pas, parce que si je dis quelque chose, ça sera pas les autres. Alors en revanche, je peux vous en citer plein si vous voulez. Plein, c'est facile.
Plein, l'huile d'olive.
Pas l'huile d'olive, justement. L'huile d'olive, c'est beaucoup plus générique. Moi, je dirais par exemple la mélasse de grenade. Je dirais un mélange d'épices, nos 7 épices. Je dirais la coriandre et l'ail mélangés, qui vient se retrouver dans beaucoup, beaucoup de plats. Je vais pas vous dire la kébé, parce que la kébé n'a pas un goût ou une odeur spécifique, parce que suivant le type de kébé, elle est différente. Mais c'est ce produit-là qui est intéressant. Après, en visuel, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est la taboulée. Quand vous avez une vraie taboulée,
toi aussi,
toute
tu
verte,
dis la taboulée. Ça me fait plaisir. Parce qu'en France, on dit le taboulé.
Oui, mais c'est pour l'autre truc.
Alors, mettons tout de suite les pendules à l'heure. Donc, la taboulé, c'est donc avec du persil plat, s'il vous plaît.
Oui. S'il vous plaît.
Très peu de semoule, et c'est pas de la semoule d'ailleurs, c'est du boulhour.
Voilà.
Bravo. Oui, d'accord. Tomate.
Menthe. Et oignon frais ou c'est bête, enfin, oignon dedans. Jus de citron, huile d'olive, sel. Point, rien d'autre, mais beaucoup de persil et du persil ciselé. Et je le dis quand même, n'essayez jamais de faire une taboulée libanaise avec des ciseaux pour couper vos herbes.
Dans un verre.
Dans un verre.
Interdit.
Interdit.
Non, mais sinon, ça peut vous prendre 3 jours pour manger 2 bouchées.
Est-ce qu'on est d'accord que si on respecte les proportions de la taboulée, c'est 1 convive, 1 botte de persil.
Au moins.
Au moins.
Oui. Enfin, voilà. Ça dépend de la botte de persil.
Grosso modo, ce qu'on voit, c'est un plat vert et c'est une salade verte qui est volumineuse parce qu'elle est aérienne.
Exactement.
On est bien ? On est
exactement.
Bien.
Et c'est très joli parce que c'est étonnant. Je ne vois pas d'autres salades qui soient comme ça. Alors après, il y a ceux qui, plus malins que ceux avec ciseaux, se sont dit qu'ils pouvaient peut-être passer le persil dans un robot. Mais alors là, c'est un crime.
De lèse-majesté.
C'est un crime pour le goût à la fin, puisque quand vous passez dans un robot, vous avez l'eau qui coule. L'eau, c'est là où il y a le goût.
Absolument.
Donc en fait, la sève alors, du persil va...
Vous savez quoi, Karim ? C'est très bien, parce que vous nous parlez de l'eau, du persil. Donc ça nécessite de laver le persil. Il y a des moments dans la vie où c'était plus difficile de laver.
Je boirais bien un petit whisky acté à l'étude déjà lavé.
Mais bien sûr, attends, je vais voir ce qu'il y a comme whisky ici.
Attendons plutôt le professionnel.
Sacré Ernest, tu as raison, surtout qu'il ne devrait plus tarder à descendre.
Pendant la guerre, offrir des fruits ou des légumes à son voisin était déjà un beau cadeau. Mais si en plus on prenait la peine de les laver, cela leur donnait une valeur inestimable. C'est Choukri qui s'occupait du ravitaillement en eau. Il remplissait le coffre de sa voiture de bidons vides et allait avec mon père et les hommes du quartier chez Vera, la sœur de Madame Linda, la voisine du 4e étage. Vera habitait un immeuble qui avait un puits artésien. Après avoir rempli les bidons bleus, les verres étaient réservés à l'essence, on transvasait l'eau dans des bouteilles en plastique et des bouteilles en verre, qui étaient en fait des bouteilles de whisky que ma mère avait gardées et lavées. Plus personne n'avait l'eau courante, tout le monde dans l'immeuble rationnait ses réserves en eau.
Alors ça, c'est une planche.
Voilà, quelle surprise !
2 pages de votre bande dessinée.
Merci.
Zeynab Yarached. C'est étonnant parce que quand on lit de manière anodine, on pourrait se dire oui, bon, bah, laver. Et on comprend toute l'importance de ces gestes et surtout des échanges qui s'opéraient.
C'est vraiment une chose inoubliable de mon enfance, qui est très liée du coup à la guerre civile et à... Surtout à le fait de vivre en communauté, parce que finalement, moi j'ai grandi à Beyrouth, et Beyrouth était coupée en deux, et de part et d'autre de la ligne de démarcation, on vivait dans des quartiers assez cloisonnés, parce que protégés, soit par des murs de sacs de sable, comme c'était le cas dans mon quartier, parce qu'on avait un franc-tireur en face, soit des quartiers dont la circulation avait été modifiée justement pour ne pas s'exposer à l'extérieur. Donc on circulait entre les immeubles, dans les cours intérieures, on avait creusé des galeries. Enfin, il y avait tout un système parallèle, en fait, de tout. Pas seulement de circulation, mais on l'a entendu dans l'extrait, pour avoir de l'eau, de l'électricité, des produits frais, circuler, etc. Et une chose que je retiens avec beaucoup de tendresse, et qui est un peu le point de départ du jeu des hirondelles, qui est sorti d'ailleurs la semaine dernière dans une version augmentée. C'est mon premier roman graphique, il est sorti en 2007. Et malheureusement, il est toujours d'actualité. J'ai voulu l'année dernière ajouter 30 pages pour parler de ce qui s'était passé depuis. C'est vrai que l'actualité au Liban, malheureusement, est beaucoup plus rapide que l'écriture. Donc, entre-temps, il s'est passé énormément de choses. Mais voilà, donc disons que c'était le point de départ, en tout cas, de mon travail sur mes souvenirs. Et cette chose-là dont vous parliez m'a beaucoup marquée, c'est-à-dire cette manière dont les gens... faisaient attention les uns aux autres. Donc quand Choukri venait nous apporter des fruits ou des légumes, il prenait toujours la peine de les laver avant. Et tout d'un coup, c'était évidemment...
un trésor.
Exactement. Et c'est un peu toutes ces traces que j'ai essayé de retrouver. Toutes ces traces qui ont fait que j'ai eu une enfance assez incroyable aussi, malgré tout. Et puis je me suis beaucoup amusée, on l'entend dans l'extrait, à essayer de raconter les choses d'une manière presque oulipienne, presque enfin objective, en citant voilà des mots aussi qu'on employait à l'époque, qu'on n'utilise plus du tout aujourd'hui, du style puits artésien, jerricando. Je me souviens qu'il y avait tout un tas de... On était très fort en calcul aussi du nombre d'ampères pour éclairer une pièce plus un frigo, ou alors la télé plus le faire à repasser, mais il fallait éteindre le frigo. Enfin, il y avait comme ça toute une arithmétique, un vocabulaire,
des usages.
Exactement, que j'ai eu envie de transmettre parce qu'il me semblait que c'était vraiment l'essence de ce qu'a été nos vies à l'époque, dans les années 80 et un peu les années 90. Puis surtout, c'est ce qui nous a permis de résister. En réalité, on parlait de résistance tout à l'heure, mais c'est vrai que tous ces petits gestes et toutes ces attentions du quotidien ont fait que nous avons survécu, évidemment, mais que nous avons aussi résisté à la folie, à la violence, au désespoir, etc.
Parce qu'en fait, dans ce livre, qui vous plaît particulièrement, je crois, Karim Haïda.
Ah oui, oui, oui. C'est un livre que j'aime beaucoup parce qu'il, d'abord, il m'a rappelé des bouts de ma propre enfance, puisqu'on a vécu les mêmes enfances dans la même guerre, à quelques années d'intervalle. Et puis, je l'ai gardé aussi pour mes enfants, parce que, bien sûr, ils ne m'écoutent pas, donc ça ne les intéresse pas aujourd'hui. Mais je me dis qu'un jour, ils voudront savoir comment leur père vivait quand il était petit. Mais c'est vrai que ce qui est étonnant au Liban, je trouve, c'est qu'en fait, c'est quelque chose qu'on pourrait croire être du passé, mais qui finalement, on redécouvre. Moi, je vis en France, et par à coup, quand il se passe quelque chose au Liban et que ça rebouge et que je regarde, parce que je suis moins présent au Liban que Zéna qui suit
ici,
un petit peu plus. Moi, j'ai toute ma famille ici, donc je rentre pas souvent. Et en fait, on découvre que non, oui, il s'est passé 30 ans depuis la guerre, mais en réalité, les coupures d'eau sont encore là, les coupures d'électricité sont encore là. Quelque part, certains gestes sont devenus automatiques. C'est quand même inimaginable de se dire que, sans véritable raison, puisque quand vous êtes dans un pays qui était plutôt prospère jusqu'à il y a quelques mois, s'il avait l'apparence de la prospérité, 30 ans après la fin dite d'une guerre, la population n'a pas d'électricité 24 heures sur 24, c'est quand même assez étrange. Je pense que ça n'existe pas dans beaucoup d'autres pays. Et c'est vrai que, à relire ça, on se dit, mais on n'est pas si loin de ce moment-là. Alors c'est très attristant. Moi, ce moment-là, pour moi, je croyais que c'était avant de relire, Le jeu des hirondelles, c'était plein d'éléments de mémoire perdus. Puis en lisant, je me suis dit, ah, mais oui, c'est vrai qu'il y avait ceci, cela, que ça se passait comme ça, qu'on se réfugiait tous, que les gens qui étaient dans les étages plus hauts descendaient voir. Ça racontait exactement tout ça. Et de me dire qu'aujourd'hui, on est encore pas très loin de là, ça m'a donné un gros coup de déprime, en fait.
C'est ça qui est le plus dur, je pense, dans ce que l'on vit aujourd'hui au Liban, depuis la catastrophe du 4 août. C'est toutes ces strates de souvenirs et de mémoires qui viennent s'empiler au-dessus de l'horreur du présent. Mais je t'écoutais parler et je me disais aussi que tous ces gestes et ces réflexes qu'on a acquis pendant la guerre, en fait, ils ont sauvé énormément de gens le 4 août, parce que beaucoup de Béroutins, ayant entendu la première déflagration, ont su qu'il fallait soit se cacher dans le couloir, soit descendre sous la table, et ça, ces réflexes-là ont sauvé énormément de vies.
Le goût du monde, Clémence de Navy.
Aranis de Sopkil sur RFI. Vous écoutez Le goût du monde, le goût de la vie au Liban avec Zeyna Birachet, dessinatrice, auteure de bande dessinée, conteuse, on l'a entendu depuis le début de cette émission, entre ici, Paris et Beyrouth. Chez elle, Karim Haïdar, chef cuisinier, libanais également, fondateur de l'Académie des cuisines arabes. Alors, c'est très beau, Aranis, cette chanson. Qu'est-ce que ça raconte?
C'est très joli parce que ce sont les cris des marchands ambulants. Aranis, c'est le maïs. Boya, c'est les cireurs de chaussures. Boya, ça veut dire peinture ou cirage. Tormos. Comment on dit Tormos?
Ce sont les lupins, les petits lupins.
Et puis à un moment, elle dit « Asekin yabotir ». J'adore cette expression. Le botir, c'est la pastèque. Et les vendeurs de botir au Liban vous proposent de goûter la pastèque avant de l'acheter parce que, bon...
C'est gros, une pastèque.
Et donc, le sekin, c'est le couteau, asekin. Donc, en gros, il propose de couper un petit triangle. En général, il fait une incision triangulaire et il vous fait goûter un bout de la pastèque. Et là, vous avez la liberté de dire oui, non, peut-être.
Et on l'entend dans les... Enfin, j'ai l'impression qu'on les entend dans toutes les BD de Zeyna, ses chansons. Oui. Pourtant, sauf dans une, il n'y a pas de musique, mais pourtant, j'ai l'impression de les entendre tout le temps. Et c'est peut-être aussi pour ça que je me suis dit qu'elle serait bien ici, parce que finalement, elle pense qu'à manger.
Mais d'ailleurs,
à part pour le cireur de chaussures.
Je l'ai dit au tout début de cette émission, Zeyna Birachet a aussi illustré, peut-on dire illustré, un livre de cuisine qui s'appelle Manger libanais,
oui,
de Kamal Mouzawa.
Ce n'est pas un ordre, mais c'est une bonne idée. Avec Kamal Mouzawa.
Et donc, nous avons dans ce livre plusieurs choses, notamment autour des medzé dont on n'a pas parlé du tout, dont il faudrait parler. Mais je pense que c'est un peu exceptionnel, le medzé. Non, c'est pas du quotidien.
Disons que les plats du medzé peuvent faire partie du quotidien, les différents plats. Mais faire un medzé à la maison au quotidien, certainement pas. Personne ne fait ça. Même si on a tendance le soir, souvent, à manger des petites choses. Mais c'est moins un medzé. C'est plus des crudités, des œufs durs, peut-être
des
produits de medzé.
Pas...
Mais le medzé, c'est le repas festif.
Oui, c'est ça qu'on a d'ailleurs dans un mariage où on se précipite pour aller manger le medzé d'Anhala. Alors là, on est toujours
dans
le jeu des hirondelles. Oui. Anhala étant, on peut dire, une grand-mère de substitution, en tout cas une femme bienveillante qui, je pense, a dû vous apprendre un petit peu à cuisiner.
Énormément, oui. À cuisiner, m'a appris beaucoup d'autres choses d'ailleurs. C'était... une personne très aimante qui nous entourait, qui s'occupait de nous. Et je me demande même si mon frère n'est pas cuisinier grâce à elle. Parce que c'est vraiment elle qui nous a transmis le goût des bonnes choses. Des choses très simples en fait, parce qu'elle n'avait pas une cuisine plus élaborée que ça. C'était la cuisine de la maison. Mais c'est elle qui nous a peut-être donné nos premières émotions gustatives. Mais même dans la manière qu'elle avait, par exemple, de manger de la labneh de chèvre, non pas dans une assiette. Je me souviens qu'elle coupait un pain libanais, elle en mettait...
C'est une sorte de fromage, j'ai oublié de préciser parce que tout le monde ne sait pas.
Oui, pardon, c'est vrai, c'est un genre de fromage de chèvre qu'on roule en boule et qu'on laisse dans un bocal avec de l'huile d'olive. Et donc rien que dans sa manière de poser un morceau de pain directement sur la table et d'écraser avec un autre morceau de pain. Tu en as parlé un peu tout à l'heure, Karim. C'est aussi toute une gestuelle, toutes les habitudes qui ont été transmises par cette femme extraordinaire. Vénus d'abondance, comme je l'appelle dans le jeu des hirondelles. Et qui a marqué mon enfance, en effet.
Alors, c'est rigolo parce que vous avez dit labneh dans un bocal avec de l'huile. Et en fait, initialement, dans cette émission aussi, je voulais qu'on parle beaucoup. Ce sera un peu, du coup, donc il faudra en faire une autre. De la mounet. Est-ce que vous pourriez me dire, Karim, ce que c'est que la mounet? Est-ce qu'on prononce comme ça? Oui, je crois.
Oui, c'est la mounet. Donc, en fait, on...
Parce que ça, c'est une tradition qui perdure.
Tout à fait, qui subsiste, bien sûr, comme dans toutes les sociétés. C'est quelque chose qui évolue. Aujourd'hui, beaucoup de familles en font de moins en moins chez elles.
Donc, c'est de la préservation, c'est ça?
C'est de la préservation pour réutiliser après. En fait, c'est le principe de vivre avec les saisons, avec ce qu'il y a. Et on se retrouve ainsi à garder ses concombres en les mettant en saumure. On se retrouve de cette manière à mettre sa labneh dans l'huile pour qu'elle reste toute l'année. On fait de la même manière quelque chose de très intéressant avec le blé et le lait mélangé ensemble, qu'on fait sécher sur les terrasses, ça fait le keshuk, qui est une poudre blanche qu'on va reconstituer en soupe ou en petite purée à dipper. On va aussi faire de la même manière le beurre, la présence du beurre. Le beurre, il faut savoir, c'est du blé qui est concassé, mais étuvé. Pourquoi il est étuvé? Pour être conservé. Donc ça aussi, c'est pour conserver. Et il y a quelque chose de magnifique que nous faisons aussi au Liban et un peu dans toute la région, c'est la fliquée, c'est le blé qui est cueilli vert et qui est ensuite fumé sur des sarments d'orge, ce qui, un, lui donne un goût très particulier, mais ensuite permet sa préservation aussi. Donc on a beaucoup de choses comme ça. Après, nous avons, pour ceux qui aiment la viande, pour le coup, nous avons la chance d'avoir une espèce de mouton très particulière, puisque c'est un mouton à queue grasse. Et ce mouton très particulier, en fait, lui-même fait sa propre mounée, puisqu'il met dans sa queue tout le gras, de manière à ensuite, quand c'est les jours plus difficiles, qu'il y a moins de nourriture, parce que on parle de moutons qui vivent dans la montagne, sur de la caillasse souvent, et en hiver il n'y a plus rien, il se nourrit en fait de la graisse qu'il a préservée. Et ce qui est étonnant, c'est que les humains utilisent cette graisse, donc nous autres Libanais, utilisons cette graisse aussi pour confire dedans des morceaux d'agneau maigre, pour le coup, et les conserver extrêmement longtemps, les utiliser ensuite à manger, ben un peu comme on ferait des rillettes ou des confits en France.
D'accord, donc toute une année. Je veux juste, Zeïna, avant de terminer cette émission, que vous me racontiez Anala et les rideaux, et la mounée derrière le rideau.
La moune est souvent entreposée, tous ces bocaux et bouteilles dont parlait Karim sont souvent entreposés de manière très organisée dans de petites pièces obscures. La moune de Anhala avait la particularité de ne pas avoir de porte. Elle avait tendu un rideau en Vichy pour séparer la cuisine de la pièce de la mounée, qui était d'ailleurs, je suppose, plus fraîche que le reste de la cuisine. Et évidemment, pour les enfants que nous étions, mon frère et moi, c'était toujours très intriguant d'aller écarter le rideau pour voir ce qu'il y avait, quel bocal avait été ajouté, quelle couleur avait été ajoutée à cette gamme de couleurs d'aliments qui avaient l'air délicieux. Et puis il y avait aussi l'idée de l'attente, parce qu'évidemment la moune, elle n'était pas faite pour être consommée tout de suite, mais on savait qu'un jour elle allait rentrer dans la pièce de la moune et sortir un bocal pour nous faire goûter des choses délicieuses.
Et donc on aurait l'été en plein hiver. De chance. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Zeïna Abirached, à lire.
C'est un plaisir.
Et à découvrir donc chez Casterman et Cambourakis. On mettra sur la page du Goût du Monde les liens pour vous suivre. Karim Haïdar, Les mots et le ciel à manger. J'aime beaucoup cet endroit, déjà.
Voilà. Il évolue petit à petit.
Il évolue, oh, il sera prêt.
Il est prêt. C'est mon petit nid.
Petit nid. 81 rue Olivier de Serres, dans le 15e arrondissement à Paris. Merci à vous deux, merci d'avoir donné goût à la vie au Liban. Évidemment, n'hésitez pas, vous qui nous écoutez, à partager vos souvenirs et vos recettes. Cécile Bonici a réalisé et mis en onde ce Goût du Monde. Merci à elle, merci à vous de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, prenez bien soin de vous.